L'idée, c'est de dire qu'un élément nourrit l'autre et que l'interaction entre les différents éléments génère finalement plus de force que simplement l'addition de ces éléments. Et donc, si on regarde l'Église comme un écosystème, ça veut dire les différentes activités, le culte, les petits groupes, ce qu'on fait avec les individus, ce qui se passe en semaine, tout ça sont des éléments qu'il faut identifier. Il faut voir si on a ce qu'il faut, mais pas trop non plus. Et ensuite vient la grande question, comment faire interagir ces éléments pour que ça donne justement une dynamique particulière? Voilà. Je prends un exemple très concret. Si vous avez dans une église des points forts, mais il y a des points oubliés ou très faibles, vous n'aurez pas du tout la même force que si vous avez tous les éléments essentiels qui fonctionnent bien et vous avez réfléchi aux liens entre les différents éléments. J'ai accompagné, il n'y a pas si longtemps que ça, une église à Aix-les-Bains, pour pas nommer, et eux, ils ont une très belle chorale gospel. Au départ, c'était uniquement pour des chrétiens, et après, ils ont dit, mais pourquoi on n'inviterait pas nos amis non-chrétiens à venir chanter du gospel avec nous? Et donc, ils ont développé ça, ils ont trouvé une chef de chœur très douée. Voilà. Et quand je les ai accompagnés, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun lien entre cette chorale gospel où pourtant beaucoup de chrétiens étaient engagés et ils avaient là beaucoup de relations avec des amis non chrétiens, mais aucun lien avec ça, ils n'ont pas réfléchi au lien entre la chorale gospel et l'église. Et je leur ai dit, mais donc les gens qui chantent le gospel, ils passent beaucoup de temps chrétiens avec des non chrétiens, finalement, ils savent pas qu'ils pourraient aller plus loin. Et pour ceux qui le souhaiteraient, par exemple, étudier la Bible en petits groupes. Et ils disent non, on n'en parle pas. Voilà. Ils avaient pas pensé. Et donc ça, c'est typiquement ce genre de faiblesse où, évidemment, vous ne tirez pas bénéfice du fait que ça pourrait être dynamisant d'avoir des éléments qui sont reliés. Vous pouvez avoir le même phénomène avec un groupe scout, par exemple. Il y a des églises qui ont un chouette groupe scout et tout, mais rien n'est réfléchi pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec les parents? Est-ce que les parents, on ne pourrait pas une ou deux fois par an leur expliquer, quand on fait le bilan de l'année, un peu pour qu'est-ce qu'on enseigne au niveau spirituel aux enfants, et leur proposer, pourquoi pas, un groupe où eux-mêmes peuvent aussi réfléchir à ces choses-là, ou des groupes où on regarde des questions d'éducation à la lumière de la Bible. Voilà. C'est ça l'idée, c'est identifier les activités et voir quel lien on peut créer de manière consciente. Juste pour vous dire, avant de faire quelques croquis, en général, quand on fait ça, on gagne en densité et on diminue le nombre d'activités. Parce que la plupart des églises ont beaucoup trop d'activités. Parce qu'on a des activités qui se sont accumulées au fil des années, qui ont été créées par quelqu'un de bien intentionné et ça faisait sens. Mais après, on se croit presque moralement obligé de continuer les activités. Et parfois, les gens, ils sont suroccupés par des activités pour faire tourner le programme de l'église au lieu de réfléchir. Chaque année, est-ce que cette activité, elle fait sens ou pas, ou est-ce qu'elle n'est pas totalement indispensable? Il faut toujours chercher à avoir le moins d'activités organisées, toujours le moins d'activités possible, mais avec un écosystème qui fonctionne bien. Encore une remarque introductive. Pour faire le pont avec ce qu'on a dit sur l'église missionnelle, à la fois un petit peu aux Mureaux, pour ceux qui étaient peut-être l'après-midi à l'atelier, ou quelques allusions de ce matin. En fait, quand Jésus est monté au ciel, il a très clairement indiqué aux disciples réunis autour de lui que leur mission, il a confirmé que leur mission serait de faire d'autres disciples. Vous ferez des disciples parmi toutes les nations. Et vous savez que souvent, il y a eu cette discussion, mais qui doit faire des disciples? Est-ce que c'est chaque chrétien Ou est-ce que c'est, comme dans certains milieux, est-ce que c'est le pasteur qui a les bonnes connaissances théologiques, ou d'autres qui disent c'est le pasteur et les anciens, parce qu'il faut quand même transmettre beaucoup de choses, donc la plupart des chrétiens, dans certains milieux, se sentent pas capables de le faire. Bon, bref, il y a cette discussion-là, qui doit faire des disciples? Et il me semble que la seule bonne lecture de Matthieu 28, c'est de dire, nous faisons des disciples ensemble. C'est la communauté des disciples qui travaille ensemble, chacun avec ses dons. Certains font rien quand on est réunis, parce que c'est pas ça leur ministère. Leur ministère, c'est à partir de demain, hein, c'est toute la semaine, voyez. Donc, comment on peut... le défi, c'est faire des disciples qui, ensemble, font d'autres disciples. Et donc, comment on fait ça concrètement? Je prends un petit... voilà, je fais un petit croquis. C'est ça notre mission. Nous sommes en tant qu'Église une communauté de disciples et nous devons réfléchir à un processus qui facilite pour les gens de leur progression dans la découverte de la foi et finalement avec ce miracle de la conversion que seul Dieu peut faire et un engagement où eux participent à faire d'autres disciples. En fait, c'est un processus. Faire des disciples, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Mais voyez-vous, comme pendant très longtemps, et on l'a dit ce matin, on pouvait présupposer que la plupart des gens autour de nous avaient déjà une notion de Dieu, avaient une notion de Jésus, avaient une certaine curiosité pour la Bible et trouvaient assez normal qu'il y ait des églises au milieu du village. Donc les évangéliques, ils se sont concentrés sur ce qui manquait. Voilà. Ils n'avaient pas forcément besoin de parler de ces éléments de la chrétienté, Dieu, Jésus, Église, Bible, ça ils pouvaient le présupposer, mais eux se sont concentrés sur ce qui manquait. Et qu'est-ce qui manquait dans la prédication? On l'a toujours dit, beaucoup d'évangéliques c'est des ex-catholiques ou en Alsace c'est des ex-luthériens, donc ils avaient entendu parler de ces choses-là depuis leur enfance. Et à la messe catholique on lit parfois même plus que dans les églises évangéliques des textes bibliques. Donc, et on pouvait présupposer beaucoup de choses. Qu'est-ce qui manquait dans la prédication? Et les catholiques et les luthériens le disaient, quand enfin ils ont entendu un message d'évangélisation et se sont convertis, ils ont dit, ce qui nous manquait, c'est que quelqu'un vienne nous dire, aujourd'hui c'est le jour favorable pour que tu te convertisses. Voilà. En fait, tu te dis chrétien, tu es peut-être baptisé, tu as peut-être une belle Bible à la maison, mais tu ne connais pas Jésus personnellement. C'est ça qui te manque. Et on s'est concentré là-dessus, sur cet événement de la prédication autour de la croix de Jésus. Et c'est ça qui, même dans le jargon évangélique, on appelle ça l'évangélisation. Et certains pensent qu'on n'est pas en train de faire de l'évangélisation si on n'est pas à ce moment précis où il faut appeler quelqu'un à se repentir. Et c'est pour ça... Selon les cultures, on est aujourd'hui encore là, et je n'accable personne. Si ça marche, si des gens se convertissent, tant mieux. Mais chez nous, si vous ne pensez pas en termes de processus, ce qui est au départ ce que Jésus a demandé à ses disciples, mais si vous pouvez présupposer, aujourd'hui vous présupposez encore que quelque part le processus il est clair dans les têtes, et vous vous concentrez uniquement sur l'appel à la foi, il n'y a quasiment plus de fruits. Et c'est pour ça que je disais, certaines méthodes, voire beaucoup de méthodes d'évangélisation, sont mauvaises pour 2023, elles fonctionnaient peut-être il y a 40 ans, parce que c'est trop concentré juste sur l'événement de l'appel à la conversion. Et ça peut fonctionner là où on peut présupposer le reste, et ça ne fonctionne plus là où il faut d'abord créer le reste. Et comment on crée le reste? C'est justement en réfléchissant en termes de processus, un processus qui commence même avant la conversion. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos amis non chrétiens s'intéressent? Après, on prie que le Seigneur les attire à lui, ça c'est que lui qui peut le faire. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il s'agit de former des disciples, de les aider à eux-mêmes être des disciples qui se multiplient avec les autres membres de la communauté. Voilà, on ne va pas s'arrêter à la conversion. Et moi, ce que j'observe, c'est que peut-être le moyen le plus simple et le même concret, le moyen le plus concret pour les responsables d'une église, c'est de réfléchir à l'écosystème de l'église. Je viens maintenant à ce dessin-là. Bon, d'abord, on a dit, ce n'est pas un scoop pour vous, on est dans le monde. L'église, qui est la communauté, elle est là. Voilà. Elle ne se dérobe pas. On n'est pas encore dans la Nouvelle Jérusalem, on est dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et maintenant, la réflexion en écosystème, c'est de dire, nous avons donc plusieurs activités. L'activité peut-être presque la plus décisive, c'est ce qui se passe en semaine. Donc, j'écris Église dispersée, où chacun, il investit son champ de mission. Ce champ de mission, c'est les 3-4 personnes avec qui il développe des amitiés. Voilà. Donc, c'est l'Église dispersée. Ce n'est pas une affaire simplement privée, ça fait partie de l'écosystème et c'est même un élément très important de l'écosystème. Ensuite, nous sommes convaincus, et c'est une bonne tradition, d'avoir une fois par semaine ou presque, voilà, ou 3 fois par mois au moins, mais d'avoir le rassemblement communautaire, le culte, qui est très important pour les chrétiens, pour ensemble adorer le Seigneur, pour nous soutenir les uns les autres, pour entendre aussi des encouragements qui viennent de l'un ou de l'autre, ou de l'exhortation, pour chanter, c'est aussi très important pour nos émotions, c'est pour nous rencontrer, nous saluer, c'est sur le plan humain. Bref, on est convaincu que dans un écosystème, c'est important d'avoir le culte. Je pense qu'il est très important aussi d'avoir des petits groupes, parce que tout ne peut pas se faire quand on est assis en rang. Quand on est assis en cercle, c'est pas mal aussi. Autour d'une table de salon, en général, dans une maison, où on est beaucoup plus dans l'interaction, dans l'échange, etc. Donc les petits groupes, tout à l'heure, je vais les détailler un peu plus. Selon moi, il est intéressant d'avoir avant tout des petits groupes mixtes, chrétiens, non chrétiens, mais il peut y avoir une bonne raison d'avoir aussi un ou deux groupes dans l'Église qui sont plutôt des groupes, par exemple un groupe d'introduction pour les nouveaux membres, où on veut qu'ils chopent un peu l'ADN de l'Église et on leur explique pourquoi on fait les choses. Donc ça peut être chaque année, on fait pendant 6 mois un petit groupe d'intégration pour les nouveaux chrétiens et gens fraîchement convertis. Il peut y avoir une bonne raison d'avoir un groupe de formation théologique pour des gens qui ont besoin d'un bagage un peu plus soutenu parce que de temps en temps ils prêchent ou parce qu'on veut les former théologiquement aussi pour qu'ils aient plus de bagages pour être après animateurs d'un petit groupe mixte par exemple. Mais selon moi, il est intéressant de mettre le gros de l'énergie au niveau des petits groupes dans les groupes mixtes et on apprend beaucoup de choses en le faisant donc. Il ne faut pas non plus croire qu'on a besoin d'être un super théologien pour pouvoir animer un groupe dans notre maison avec des chrétiens et des non-chrétiens. Parfois, bon, maintenant je suis mal placé pour dire que la théologie ne sert à rien, mais voilà, il ne faut pas exagérer en termes de connaissances théoriques, mais on apprend beaucoup en le faisant, et c'est ça aussi qui nous donne la soif de mieux connaître la Bible. Donc vous avez l'église dispersée, vous avez le culte, vous avez le petit groupe. Maintenant vous avez peut-être la chance d'avoir de bons animateurs de jeunes, enfance, etc. Et donc c'est un autre élément de l'écosystème autour de la jeunesse. Selon moi, ce qui est très intéressant, c'est de faire la même opération au niveau de la jeunesse et des enfants, c'est-à-dire pas seulement réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants et nos jeunes, mais qu'est-ce qu'on fait pour nos jeunes et leurs camarades pas encore convertis. Autrement, vous introduisez le côté missionnel aussi dans cette activité-là. Après, vous avez peut-être encore, dans le jargon missionnel, on appelle ça la troisième porte. La troisième porte, ça peut être une chorale gospel, si vous avez quelqu'un qui est doué pour ça et voilà, qui veut faire ça. Ça peut être un travail social. Ça peut être une super troisième porte si vous êtes dans un quartier et vous êtes vous-même en contact avec pas mal de gens qui ont des besoins sociaux. ça peut être quelque chose de plus culturel. Par exemple, dans l'union d'églises à laquelle je suis rattaché, on a à Paris, 12e, on a une galerie d'art. Parce que plusieurs personnes très engagées dans l'église sont des artistes, c'est même leur métier. Et donc, ils ont loué une galerie d'art qui sert en semaine une ou deux fois pour des réunions, qui sert le dimanche en fin d'après-midi pour un culte, mais qui le reste de la semaine, c'est un business. Voilà, c'est des artistes qui exposent, qui font des cours, etc. On a ailleurs, à Strasbourg, on a un café, My Goodness Café, si vous passez une fois là, pas loin de la cathédrale, qui est carrément dans les revues de la ville de Strasbourg, parce que c'est un des meilleurs cafés de la ville qui est servi. Donc ils le font vraiment de manière professionnelle. Ils vendent leur café, ça paye un barista professionnel, etc. Mais pour eux, ce n'est pas leur évangélisation, c'est une troisième porte supplémentaire. Eux, ils misent plus sur le culte, sur les petits groupes, mais ils disent que ça nous permet de rencontrer quand même de nouvelles personnes au-delà de ce que nous, on peut rencontrer là où on habite. Vous voyez ? Bon, bref, vous avez ici un écosystème, tout à l'heure je vais montrer d'autres exemples, mais très simple. Et vient maintenant la question où vous réfléchissez en tant que conseil. D'abord, qu'est-ce que nous on veut comme activité ? Ça doit aussi correspondre aux dons qu'on a. Hein ? Vous pouvez rêver de certaines choses que vous n'arriverez pas à faire, parce qu'il n'y a personne qui a le don pour cela. Avec Esther... on a fait pendant presque 20 ans beaucoup de travail parmi les jeunes. Mais si moi, maintenant, je rêve de recommencer quelque part un travail parmi les jeunes, voilà, tout le monde va rire, vous voyez. Il y a un âge aussi pour faire les choses. Moi, j'ai bien senti, quand je commençais à avoir 40 ans, avant, j'étais accepté, et à partir de 35-40 ans, j'étais respecté. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas se tromper non plus. Moi, j'aime chanter, mais voilà, ce n'est pas ma vocation de créer une chorale gospel. Donc, faisons peu de choses, mais faisons le bien. Voilà. Mais sans minimiser justement ces points principaux que sont les petits groupes découvertes ou groupes mixtes et le culte. Moi, je vois que partout, ça bouge. On a bien travaillé avec ces deux éléments-là. Et donc après, tant mieux si vous pouvez faire quelque chose de bien autour de la jeunesse, autour d'une éventuelle troisième porte, mais c'est selon moi facultatif, mais ça peut être bien. La troisième porte, elle peut surtout aussi jouer un rôle par rapport à la visibilité de l'Église vis-à-vis de l'extérieur. Ce n'est pas forcément des lieux de grande évangélisation, mais ça nous permet de rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait pas rencontrées, et ça peut être parfois l'élément où... Les gens qui ne comprennent pas grand-chose à l'Évangile, ils comprennent au moins qu'on est des gens qui avons envie d'aider les autres, vous voyez ? Culturellement, socialement, là j'ai parlé de café ou de chorale gospel. Nous, on était à un moment donné au Pré Saint-Gervais, qui est un peu le 21e arrondissement de Paris pour les connaisseurs, avec pas mal d'artistes et tout cela. Et donc nous, on a dit, mais nous... ce qu'il faut faire, c'est essayer d'entrer en contact, aussi parce que deux, trois de nous avaient ça à cœur, on va entrer en contact avec certains artistes locaux et on va offrir la possibilité de faire régulièrement, deux, trois fois par an, une exposition d'œuvres artistiques dans notre petite chapelle. Parce qu'ils cherchent toujours des lieux pour exposer, quoi, des jeunes artistes. Et donc, on a fait ça. Et nos collaborateurs sont allés un pas plus loin. Et ils ont, après, accompagné une espèce de collectif d'artistes du Pré Saint-Gervais en leur proposant un thème vaguement inspiré de la Bible, souvent avec un verset des psaumes, un truc voilà, assez accessible au plus grand nombre, et demander aux artistes, est-ce que vous ne voulez pas créer une œuvre ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et ça donnait des choses très, très sympathiques, vous voyez ? Mais c'était plus pour être en dialogue et puis en même temps faire un truc bien. Et puis on a invité le maire au vernissage en disant, ben, regardez les artistes là, de votre ville. Et après, il était des fois un peu embêté pour commenter le verset du psaume. Voilà, non, c'était assez amusant même, voilà, parce que
Une fois, il m'a dit, mais moi, je ne sais, sais pas quoi dire, je vais parler de laïcité. Mais j'ai dit, allez-y, monsieur le maire. Voilà, donc il a fait un petit discours de laïcité, mais il était dans une certaine autodérision. Il a dit, là, je vois que c'est important, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Bon, bref. Voilà. Je referme la parenthèse pour vous dire, vient maintenant la grande question, qu'est-ce qu'on fait pour que un élément fertilise l'autre? L'Église dispersée, à un moment donné, elle s'arrête si on n'offre pas aux chrétiens la chance de pouvoir amener ses amis avec qui il a commencé un dialogue. Il faut qu'il puisse les amener quelque part. Voyez ? S'il dit, mais le culte, c'est quand même une marche trop haute, ben, au moins, proposons-lui un système de petits groupes où il peut dire, dès que ce sera possible, je peux dire à mon ami, écoute, dans 6 mois, on va commencer un nouveau groupe et tu pourras venir à cela. Vous voyez, il faut penser en termes de prolongement du témoignage individuel. Il faut que l'Église soit en quelque sorte le meilleur partenaire du chrétien dans son témoignage. Et donc, réfléchir comment on peut prolonger l'Église dispersée par des petits groupes, mais aussi réfléchir comment on peut faciliter le passage de la semaine église dispersée vers le culte. Est-ce que dans notre culte, on est ce qu'on est, on a notre histoire, on a notre sensibilité, tout ça c'est légitime. Les gens, ils ne nous demandent pas un show parfait, ils veulent l'authenticité et en même temps on est dans un cadre culturel où en France, on s'attend à une certaine tenue quand on convoque les gens à une réunion. Hein? C'est comme ça. Et c'est là, les cultures sont très différentes. Et chez nous, ça veut dire qu'il faut, si on est 50 ou 100, ça veut dire qu'on n'est pas trop pompeux, on est accessible. En même temps, c'est un peu organisé. Manifestement, les gens qui sont devant, ben, ils ont un peu réfléchi à ce qu'ils disent, etc. Il faut respecter les codes culturels pour ne pas créer des interférences. Il faut, pour le culte, réfléchir si on chante, par exemple, un dimanche, plusieurs chants avec un terme hébraïque. Il ne faut pas être lourd, mais la première fois, on donne juste la petite clé. Les gens, ils sont intelligents, hein? Mais ça les aide si on dit ça, en fait, ça veut dire ça, et c'est beau de le chanter en hébreu parce que c'est la langue d'origine d'une partie de la Bible, et paf, on passe à autre chose. Les chrétiens, ça ne les ennuie pas, et les gens, ils ont des clés pour sentir, tiens, ils font un effort pour qu'on soit à l'aise. Mais il ne faut surtout pas infantiliser les gens, hein? Certaines églises, à partir du moment où ils savent qu'il y a des invités, ça se transforme presque en école du dimanche. Mais non, les gens, ils sont... comprenez-moi bien. Bon, les gens, ils sont intelligents, mais il faut enlever les interférences inutiles. J'étais l'autre... avec les étudiants de Vaud, j'ai découvert qu'il y avait dans la ville de Vaud une association qui fait du soutien scolaire qui manquait de personnes. Et donc, j'ai convenu avec mon collègue, le doyen, Christophe Payat, j'ai dit, tiens, moi, je trouve que peut-être certains de nos étudiants voudraient s'engager. Est-ce qu'on peut inviter le président de cette association pour venir présenter ses besoins? Parce qu'il cherchait quelques personnes. Et donc, ce monsieur Widmer de l'association, il est venu à la fin d'un culte où tous les étudiants étaient réunis pour qu'il présente sa demande. Bon, Christophe et moi, on tremblait un peu intérieurement parce qu'on ne peut pas obliger nos étudiants de s'engager et en même temps, on espérait que ça mobilise un petit peu. Bon, finalement, il y a 4 étudiants qui sont engagés. On était très fiers d'eux. C'était super. Ceci dit, je reviens à la question, c'était à la fin d'un culte. Ce monsieur Widmer, dont on ne connaissait absolument pas les convictions, il est venu et nos étudiants, ils ont entonné le chant Yahweh, Yahweh, le chant qui est sympa, hein? Voilà. Et moi, après, je les ai quand même sermonnés. J'ai dit, écoutez, il y a quelqu'un qui vient là pour la première fois et il ne sait quand même pas tout à fait où met les pieds. Il vient à la fin d'un culte. Il voit que, a priori, c'est des gens sympathiques. Mais quand même, vous faites chanter Yahweh sans aucune explication, il pourrait quand même penser qu'on est peut-être quand même des témoins de Jéhovah. Vous voyez ? Non, ça c'est, je prends cet exemple pour vous dire que ce n'était pas du tout... c'est simplement un peu un impensé, quoi. Pas assez réfléchi. Et ça aurait été si simple. C'est dire, maintenant, on va chanter tous ensemble un chant très joyeux. Et voilà. Yahweh, en fait, c'est un très beau nom, paf, et on passe à autre chose. C'est ça que je veux dire. À un moment donné, c'est du travail de réfléchir quel est le lien entre l'Église dispersée et le culte pour que le culte soit vraiment une vitrine, une porte ouverte. Pas pour jouer autre chose. Je ne parle pas d'un culte d'évangélisation. Je parle d'un culte pour les gens qui sont là, c'est-à-dire avant tout les chrétiens et éventuellement un certain pourcentage d'amis invités. Et il faut que ça fonctionne pour les deux. Il faut que les chrétiens soient nourris, édifiés, encouragés, relevés par la parole de Dieu et qu'au centre, on chante les louanges du Seigneur et en même temps que l'ami ne soit pas perturbé par des habitudes trop internes où il se dit « je suis quand même un peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne comprends rien à leur information. Je... » Voilà. Il ne faut pas compliquer les choses, mais enlever les obstacles inutiles. Mais le culte, les petits groupes, la jeunesse, réfléchir quel peut être le lien entre les jeunes, leurs parents, comment on peut un peu prolonger, comment on peut faire fructifier ça, les jeunes et le culte, la troisième porte, vous voyez, vous comprenez tout ça. Et ça, c'est du travail pour un conseil. Mais c'est un travail très, très bien, quoi. Je trouve que c'est même encourageant. Et parfois, en dessinant, et si je peux vous donner un conseil, c'est même de dessiner votre écosystème actuel et de réfléchir, est-ce que chacune de ces activités est utile? Ou est-ce qu'il y a des activités qui ne servent pas à grand-chose et qu'on maintient un peu par habitude et on pourrait élaguer parce qu'il faut toujours aller vers le maximum de simplicité? Alors, quand je dis inutile, c'est, il faut savoir à partir de quoi on définit cela. Je vous encourage, je m'encourage à rester toujours sur ce critère que j'ai évoqué. Une église est une communauté de disciples qui a vocation à faire d'autres disciples. Et donc, à un moment donné, il faut réfléchir, est-ce que ça sert à ça? Vous voyez? Il y a des activités qui sont trop déconnectées. Voilà. Moi, on m'a dit, oui, mais notre étude biblique, ça fait 15 ans qu'on est les mêmes, on se connaît bien et c'est encourageant et tout. Et j'ai senti que c'est plus un cercle d'amis. Alors, soyez amis, mangez ensemble, partez même en vacances ensemble si vous voulez. Mais vous voyez, on peut surcharger l'Église finalement de tâches qui sont un peu secondaires pour l'Église. Voilà. Et le reste, c'est la vie... Voilà, notre vie, elle est variée, on a plusieurs types de relations, mais parfois on confond les choses. Donc je vous encourage en tant que conseil de réfléchir en dessinant, pourquoi pas, sur une grande page, votre écosystème actuel, de commencer par identifier les choses, en identifiant qu'est-ce qui est vraiment utile pour la multiplication des disciples, et ensuite faire cet exercice du lien. Et c'est là qu'on s'aperçoit parfois qu'on a une activité qui est presque isolée. Et que les gens qui viennent à la limite 2 mois au culte, ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a d'autres éléments qui interagissent avec le culte. Ce n'est pas tout à fait normal si on peut fonctionner en tant que chrétien dans une église, un chrétien qui a envie d'être actif, je ne parle pas de quelqu'un qui va faire un tour pour voir un peu, qui cherche une église, mais ce n'est pas tout à fait normal qu'on n'ait pas besoin des autres éléments, ça veut dire qu'on est peut-être trop dans la superposition. Vous voyez, il y a des églises où je vois les études bibliques, finalement on fait la même chose qu'au culte. C'est quelqu'un qui prêche, c'est plusieurs qui prient, et peut-être on chante au début, à la fin, et finalement c'est comme un culte. Bon, il n'y a peut-être pas la Sainte-Seine, mais voilà. Il faut être le plus spécialisé possible dans chaque activité. On n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut que chaque activité soit utile, indispensable et en interaction avec le reste. Et donc, maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais où j'ai un peu plus travaillé pour vous montrer, par exemple, là, cet écosystème. Pour moi, c'est un écosystème assez efficace. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit le même, hein, il faut l'adapter. Mais là, vous avez le culte, la célébration, vous avez La troisième porte, on en a parlé, travail diaconal culturel. Vous avez surtout, là à droite, j'ai mis Église dispersée, qui est un peu le fer de lance. Mais l'Église dispersée n'est pas indépendante, elle est en lien, et j'ai spécialisé ici un peu la question des petits groupes. Donc il y a des petits groupes mixtes, il y a les petits groupes éventuellement par tranche d'âge. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs seniors, ben pourquoi pas faire en semaine, dans la journée, un groupe senior, mais dans ce cas-là, donnez-lui aussi un caractère missionnel pour que les seniors puissent inviter d'autres seniors. Je connais au moins deux églises où c'est finalement le groupe presque le plus missionnel. Parce qu'ils ont affaire à des gens de leur âge qui s'aperçoivent que ben, la vie, elle est courte et ils se posent de bonnes questions. Et ils aiment surtout, ils se sentent seuls souvent. Et ils aiment beaucoup la compagnie, et puis on peut aussi goûter ensemble, on peut faire tas de choses. Bon, bref, il n'y a pas beaucoup de limites, en fait. En fonction des dons que le Seigneur donne, on a une liberté. Donc ici, je mets différents groupes. Pourquoi pas des groupes de prière tous ensemble. Après, moi, je fais une autre proposition. Et comme j'ai dit, des groupes de formation. Je fais ici, j'ai mis une bulle supplémentaire, j'ai mis le suivi individuel. Parce que si on a la chance aussi d'avoir un pasteur et des responsables, il y a des personnes qui ont besoin aussi d'un suivi individuel. Je pense que beaucoup de besoins pastoraux peuvent être couverts dans un petit groupe. Ça règle beaucoup de questions, ça répond à beaucoup de questions. Mais il y a parfois des situations ou des phases de la vie ou des questions particulières pour des personnes en cheminement ou pour des personnes converties qui demande un suivi individuel. Donc, il faut réfléchir comment on l'organise, qui est-ce qui le fait et quelle est l'interaction avec le reste. J'ai mis ici encore les groupes de croissance. Les groupes de croissance, c'est un peu du jargon. C'est en fait un système où on dit trois hommes, trois femmes, trois jeunes gars, trois jeunes filles prient chaque semaine ou tous les 15 jours ensemble. Sont dans une certaine redevabilité, vraiment personne n'est seul parce qu'il y a deux autres, et pour que ce soit libre et suffisamment concret, intime, on dit trois hommes, trois femmes, c'est l'expérience, c'est pas le lieu, me semble-t-il, de mélanger, contrairement à des groupes de maison, hein. Mais pour que ce soit simple, ce n'est pas des réunions qui doivent être organisées par un pasteur. On ne sait même pas quand est-ce que les groupes se réunissent. C'est entre eux. Ça peut être par Zoom, ça peut être en mangeant un sandwich à l'université. C'est des choses très décentralisées, mais où on propose un système pour que personne ne soit tout seul et qu'il ait surtout le soutien dans la prière de deux autres chrétiens pour ses amis non-chrétiens. Moi, je vois le grand intérêt des groupes de croissance dans le fait que personne n'est seul dans son témoignage. Et je vois que dans certaines églises, ça marche très, très bien, où les jeunes, ils disent à deux autres, voilà, actuellement, j'essaye d'être un témoin auprès de telle ou telle personne, merci de prier pour eux. Et puis, on est comme ça, un peu dans une redevabilité et dans la durée. Donc ça, c'est la même chose, déjà un peu plus détaillée. Et je termine la partie exposée avec un tableau. Bon, je l'ai coupé en morceaux pour que ça soit lisible là sur l'écran. Sinon, j'ai une version avec un seul tableau. Je vous mettrai les deux et puis vous verrez pour la diffusion. C'est donc pour vous inspirer un peu, hein. Je ne dis pas qu'il faut recopier mon écosystème, mais pour vous inspirer un peu. Moi, quand je le fais avec une église, regardez, je mets bon, le point d'entrée. Voilà. On parle donc de l'activité précise qui fait partie de l'écosystème et on définit à chaque fois en quelques mots le principe et l'objectif. Justement, on n'a pas de temps à perdre et donc il faut savoir comment on va le faire et pourquoi on le fait. Donc, le principe ici, l'église dispersée, c'est dire inciter chaque chrétien à développer un style de vie missionnel, c'est-à-dire on est au service de son prochain avec tout ce qu'on est, humain et avec un souci spirituel. L'objectif, définir pour trois ou quatre personnes, devenir pour trois ou quatre personnes un ami de confiance. Il ne faut pas trop demander à chaque étape. C'est déjà bien si dans une église, vous avez dans l'église dispersée, cette incitation, on est des témoins là où on est, mais vous n'êtes pas tout seul, mais pour cette étape-là, voilà le style, le principe, et voilà l'objectif. Et vous n'avez pas besoin de vous-même d'expliquer tout l'évangile et tout, parce que c'est en interaction avec beaucoup d'autres éléments. Vous voyez ? En fait, vous simplifiez la vie du chrétien, parce que certains chrétiens y croient, je devrais être en quelque sorte un témoin, travailleur social, professeur, pasteur, évangéliste, je devrais tout faire pour faire d'autres disciples. Non, il faut simplifier, il faut dire, toi, ce qu'on attend de cette étape-là, c'est d'abord l'authenticité, un style de vie missionnel, servir là où tu es, et c'est déjà super si tu peux devenir pour 3 ou 4 personnes un ami de confiance en vue d'aller plus loin. Ensuite, vous avez ici le culte, la célébration. Le principe, un lieu d'adoration, de rencontre communautaire pour soi et ses amis. Voilà, c'est comme ça on l'a défini. L'objectif, être ressourcé par la parole et l'esprit, donner activement corps à la communauté. Je vous laisse regarder, c'est des propositions, et je trouve pour un conseil d'église très très bien, de définir son écosystème. Voilà. Et souvent en faisant l'exercice avec des églises, j'ai vu que certains disent, oui mais nous, c'est pas un écosystème, c'est une usine à gaz. Hein? On a 17 activités, c'est les mêmes qui sont presque partout, c'est normal qu'ils aient plus le temps de boire une bière avec le voisin, vous voyez. Donc, élaguer, regarder, et aussi, comme je disais, parfois la même chose, le même objectif pour l'étude biblique, pour le culte, pour... Non, spécifier pour simplifier et rendre plus efficace, sachant que ces activités n'ont pas besoin de fonctionner en autarcie, en autonomie, parce qu'on a juste, au contraire, on veut qu'elles interagissent. Ce qui simplifie finalement, même si c'est un peu de travail. Donc je continue. Deux autres activités. Donc les groupes mixtes de maisons. Nous, on a défini ici le principe, un lieu de vie intergénérationnel, d'enseignement et de soutien réciproque. Ça, c'est le principe. Voilà, on avance ensemble, c'est pas que des jeunes, bon les jeunes ils ont éventuellement le groupe de jeunes mixte, hein, mais ici c'est en semaine, c'est normalement dans une maison, etc. On a mis l'objectif, rencontre, partage, soutien, cheminement des chrétiens et non-chrétiens. Voilà, c'est ce lieu privilégié de rencontre de chrétiens avec des non-chrétiens qui, à partir d'une porte, ils ont défini, est-ce que c'est directement le texte biblique, est-ce que c'est des valeurs, est-ce que c'est des émotions, est-ce que c'est autre chose. On fait une série de rencontres où on est avant tout dans une logique de partage avec des études bibliques inductives. Je peux revenir éventuellement sur 2-3 notions si vous me posez une question. Groupe mixte de maison. Ensuite, les groupes spécialisés, des groupes par tranche d'âge, enfants, ados, jeunes, ou avec une mission spécifique comme la formation. Objectif, couvrir les besoins de catégories spécifiques ou équiper des chrétiens pour leur mission. Voilà, donc on définit qu'est-ce qui est utile dans la phase actuelle, comment on fait vivre ça et quel est le lien avec le reste. Et c'est tellement important que les chrétiens sachent pourquoi on estime que c'est important qu'ils participent au moins pour un temps à telle ou telle activité. C'est un peu fini ce temps où on fait toujours des appels très généraux, comme si tout le monde était concerné partout. Je pense qu'il y a le culte qui est le magnifique croisement de tout, de tous, mais sinon il faut accepter que une vie d'église, voilà, elle se spécialise un tout petit peu, parce qu'on vit tous dans un monde un peu fou, il faut le dire, point de vue sollicitation, des familles, des carrières, etc. Il faut, voilà. Et si on veut qu'en plus on ait encore du temps à passer avec des amis non chrétiens, il faut être raisonnable.
Juste pour oui. Ce tableau-là, est-ce que ce serait judicieux ou pas de mettre une troisième colonne, une quatrième, quand tu dis le lien avec le reste, par exemple le groupe spécialisé, C'est-à-dire quoi, le lien avec le plus
tracé? Oui, alors moi je le fais en deux parties. Là, c'est le tableau un peu synthétique, surtout qui met l'accent sur la définition de principe et objectif, mais on peut très bien le combiner. D'ailleurs, ce que certaines églises, quand on a travaillé dessus, ont noté ici dans le tableau, ils l'ont après incorporé dans un grand tableau avec les bulles, et ils ont noté ça dans la bulle et avec le lien. Mais bon, il y a plusieurs façons graphiques de le faire. Mais on est bien dans la même logique. On entre ici un peu avec la loupe dans les différentes bulles et on dit à quoi ça sert, quoi. Mais on pourrait le faire aussi à partir d'un tableau là comme ça, où on note. Bon, moi je travaille avec les deux. Je travaille avec la partie graphique, et ici c'est pour être un peu forcé à se mettre d'accord sur le principe et sur l'objectif. Et donc ici, les trois dernières activités qu'on a évoquées, mais dont j'obtonne des précisions, la fameuse troisième porte. Le principe, c'est un lieu de service et de rencontre ouvert, amical et rayonnant de nos valeurs. Objectif, grâce au talent des membres, servir les habitants et créer la confiance. Je vous fais juste apprécier le fait qu'on est vraiment dans chaque activité avec un autre principe et avec un autre objectif. Et vous voyez la force que ça dégage ? Parce que ce qu'on fait, on le fait pour une certaine raison, et on le fait bien. Voilà. Parce que si la troisième porte finalement sert à la même chose que les groupes de maison, et si les groupes de maison finalement devraient un peu avoir la même chose que les mêmes éléments que le culte, c'est là que voilà, on est dans la superposition et dans un manque d'efficacité. Ici, je précise la question des mini-groupes de redevabilité, qu'on peut donc appeler aussi les groupes de croissance. C'est un lieu d'exhortation à la croissance dans la piété personnelle, lieu de soutien du témoignage individuel par des prières nominatives pour les amis de chacun. L'objectif, c'est redevabilité au sein du groupe pour la lecture de la parole et le partage de l'évangile auprès de ses amis, soutien mutuel pour le témoignage. Je fais allusion là à plusieurs choses qui présupposent quelques connaissances, si vous pouvez éventuellement me poser des questions ou je peux vous indiquer des ressources, et en particulier un livre écrit par Neil Cole qui a inventé ou réinventé un peu ces groupes de croissance avec trois hommes, trois femmes qui justement ne fonctionnent pas comme un groupe de maison et encore moins comme un culte, mais c'est quelque chose de très souple pour que aucun chrétien soit tout seul dans son témoignage, vous l'aurez compris. Et Neil Cole intègre là-dedans avec raison aussi l'idée de... En fait, on s'engage aussi à lire les mêmes textes bibliques que les deux camarades du groupe, et donc on peut discuter un peu de ça. Mais ça, c'est chaque église qui doit choisir où elle place les éléments. On veut que les gens soient encouragés à prier, on veut qu'ils reçoivent le soutien dans la prière, on veut qu'ils soient encouragés à lire la Bible, on veut qu'ils soient acteurs, pas seulement consommateurs. Et donc, voilà, où est-ce qu'on place cela ? Enfin, les ministères pastoraux, on a la chance d'avoir des pasteurs, des responsables, le principe, des personnes ressources pour le leadership, la formation, l'accompagnement et le discernement des vocations. Très, très important que le ou les pasteurs aident les personnes à trouver aussi leur place dans le royaume de Dieu, et en l'occurrence ici dans l'écosystème. Pour certains, ça veut dire surtout l'église dispersée, et puis pour d'autres, il y a quelques autres activités. L'objectif, encourager chacun à servir Dieu et son prochain et à participer à faire d'autres disciples. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on peut tout de suite discuter. Qu'est-ce que vous voulez que je mette pour qu'on ait un peu sous nos yeux? Voilà, peut-être ceci. Réaction, question, complément? Ça met certainement aussi des mots sur des choses qui sont intuitivement là, mais c'est encore mieux parfois de le dire et de travailler dessus. Et comme je sais, je trouve ça très encourageant, vous avez envie aussi de vivre une nouvelle étape, plus concrètement missionnelle. Pour moi, c'est un des meilleurs leviers
pour concrétiser la missionnalité de l'Église. C'est de dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a comme activité, qu'est-ce qu'on fait, et quelle est la place de chacun. En n'oubliant surtout pas l'Église dispersée, parce que j'insiste, pour certains, pour beaucoup, c'est leur mission principale. Ne les embêtez pas trop avec le reste, quoi, si je peux me permettre de le dire ainsi. Parfois, on est stressé, on voudrait... Et dans certaines églises, si vous voulez être actif, il faut soit être membre du conseil, soit prêcher, soit présider, soit faire partie du groupe de louange. Voilà. Et le groupe de louange devient une espèce de star academy où les jeunes se pressent parce que c'est presque le seul endroit où ils peuvent avoir un lieu de service et ils veulent bien faire. Qu'est-ce que c'est réducteur ? Parce que pour beaucoup de jeunes, leur ministère, il est là en semaine, mais il faut réfléchir comment on peut le nourrir pour qu'il ne soit pas tout seul. Voilà. Donc ça donne aussi de l'oxygène, cette affaire-là.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Ça paraît assez compliqué, enfin, il y a beaucoup de choses. Quelle est la méthode que tu utilises pour des églises établies comme la nôtre pour amener cela ? Est-ce que tu réunis le conseil en les faisant réfléchir et travailler ? Est-ce que tu as une approche méthodologique ?
Oui.
Par exemple, peut-être, je crois que tu le fais avec Kevin, avec son église.
Non, là, je l'accompagne, lui, je l'ai comme étudiant, et donc on discute, oui.
Dans une église,
oui.
Tu as une méthode,
oui.
Pour d'abord faire réfléchir les conseillers, et ensuite après...
Oui. Oui, effectivement. En fait, je le fais, après, on peut certainement faire mieux, mais moi, je le fais assez simplement. Pour moi, l'idéal, quand je l'ai fait pour des églises ailleurs, et là, plus récemment aussi, par exemple, pour une église très classique en Alsace, l'église qui a des racines au 19e siècle, hein, donc pour les évangéliques, c'est impressionnant d'avoir une si vieille église. Et donc, là, on a organisé deux week-ends, pour vous donner un ordre de grandeur. On a organisé deux week-ends. Un, c'était plutôt pour parler de la multiplication des disciples, donc un peu de ces éléments de missionnalité. Et une fois que cela a été intégré et très souhaité de leur part, hein, pour la mise en pratique, on a fait un deuxième week-end où on a travaillé exclusivement sur, à part la prédication du dimanche, mais sinon on a exclusivement travaillé sur l'écosystème. Et donc ce que je leur ai demandé, c'est commencer, une fois qu'ils ont entendu à peu près ce que je viens de dire là, on a travaillé autour des tables, avec un très grand papier, un peu à l'ancienne, mais c'est souvent une très bonne méthode, où on a donc graphiquement dessiné l'écosystème actuel. Et après je leur ai demandé de le commenter, etc., et ils se sont aperçus des deux choses classiques que j'ai mentionnées, c'est qu'il est beaucoup trop complexe. Ils ont des activités, ils avaient même des cours de cuisine pour les hommes. Mais pourquoi on aurait besoin de l'Église pour ça ? Non mais c'est très très bien si on sait faire une aussi bonne sauce qu'André, c'est une chance. Mais... Ou alors si vous pensez que ça manque dans le quartier de votre ville... Mais alors faites-le pour des chrétiens et des non-chrétiens. Mais qu'est-ce que c'est ? On n'a pas le temps d'avoir une vie de groupe comme ça entre nous, vous voyez ? Bon, bref, j'ai même pas eu besoin de le dire, ils ont dessiné leur écosystème et ils ont vu qu'il était trop complexe, qu'ils ne se sentaient pas libres d'arrêter certaines activités qui un jour ont des activités qui avaient été commencées par quelqu'un qui avait ça à cœur, mais cette personne n'est plus là, il n'y a personne qui a vraiment le don, mais quelque part, on a l'impression qu'on est moins spirituel que la génération précédente si on ne maintient pas cela. Vous voyez ? Et ils voulaient, après, ils étaient très tentés par des groupes, mais ils voulaient ça. Tout ce qu'ils ont chopé comme idée quelque part, ils le rajoutaient toujours à leur écosystème. Vous voyez ? On voudrait en fait avoir des cellules de prière beaucoup plus souples dans les quartiers et tout, mais... il y avait quand même dans le conseil pastoral des personnes qui ont dit « Oui, mais on ne va pas abandonner la réunion de prière du mardi ou du jeudi. » Donc, tout ce qu'ils ont inventé, ils l'ont rajouté. Et ils se sont aperçus en dessinant leur écosystème que ça ne pouvait pas marcher. Et qu'à un moment donné, si on dit « Maintenant, on va décentraliser, par exemple, les réunions de prière »,
pour avoir plus de proximité, pour que on ait moins de kilomètres à faire et que peut-être on le fasse pas dans une soirée, mais qu'on le fasse au retour du boulot, qu'on le fasse à 6h30 du soir, et puis que les papas après ou les mamans passent leur soirée avec la famille. Vous voyez, à partir du moment où on crée un autre système, on ne garde pas l'ancien. Voilà. Bon, bref, ils ont eu ce genre de réflexion en voyant la complexité. Et la deuxième chose qu'ils se sont aperçus, c'est qu'il y a pas mal d'endroits où il n'y avait pas de flèche. En étant honnête avec, ils ont dit, ben voilà, c'est pas évident du tout chez nous la connexion entre ceci et cela. Ils ont bien vu que s'il n'y avait pas beaucoup de connexion entre l'église dispersée et le culte et les petits groupes, alors là, par contre, c'était très très ennuyeux, quoi. Mais ils se sont aperçus aussi qu'il y avait pas de connexion, je crois que c'était chez eux, entre le groupe scout et les parents des enfants qui étaient invités au scout. Bon, bref, analyse d'abord. Et ensuite, ils ont, à partir d'un modèle, là, dit, voilà ce qui nous, avec les dons qu'on a, qu'est-ce qui nous semblerait notre écosystème idéal. Et c'est là que je les ai poussés à non seulement rêver en quelque sorte de l'écosystème idéal, mais à chaque fois de travailler sur le principe et l'objectif. Comment ça va fonctionner? Voilà. Et ça a donné matière à discussion, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes. À quoi ça doit servir? Voilà. Et comment on va dire que c'est une activité qui est satisfaisante? Il faut bien un objectif. Il y a parfois dans des églises un peu de résistance de la part de certains qui disent « Mais nous, il y a déjà beaucoup de réunions d'évaluation au boulot et tout, ça sent un peu l'usine, vous voyez ?» Là, il faut évidemment, on le fait dans un autre esprit. On le fait dans l'esprit beaucoup plus de la parabole des talents, où le Seigneur donne à l'un un talent, d'autres y donnent plus. Et puis, par contre, ce qui est important pour tous, c'est de faire fructifier les talents qu'ils ont et surtout de ne pas les enterrer. C'est dans cet esprit-là qu'on le fait, quoi. C'est pas une efficacité selon le monde, voilà, on le sait. C'est le souci de ne pas gaspiller notre temps et notre énergie et d'avoir quelque chose de simple qui soit incitatif aussi pour notre témoignage en semaine. Parce que, alors, ça, j'ai observé à plusieurs endroits, et je fonctionne, Esther et moi, on fonctionne comme ça nous-mêmes. Quand une église a investi du travail pour avoir des petits groupes très accueillants et un culte très accueillant, mais ça encourage à témoigner. Parce qu'on se dit, tiens, mon témoignage, il va pouvoir se prolonger, quoi. Je ne suis pas tout seul dans cette affaire. Donc voilà, c'est comme ça que moi je procède. Analyse d'abord, et après, redéfinition d'un écosystème avec principe et objectif. Et j'ai eu quelques témoignages encourageants d'églises, encore une fois, qui au départ, ils avaient déjà beaucoup de bons éléments, mais ils ont vu qu'il y avait des interférences inutiles, ou des doublons inutiles, et des manques. Autre question, remarque ou...
Olivier, peut-être tu as le petit pack là, tu sais.
Oui.
Voilà. On en a parlé après le culte là. Je crois que tu l'avais évoqué.
Ah oui, oui. Encore, oui, hein. Oui.
Alors Olivier, on en a parlé un petit peu. Il dit, je sais pas si ça convient, parce que en fait, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça? En fait, tu peux décrire peut-être ce qu'il y a dedans.
Non, c'est une de mes filles et mon gendre avec d'autres personnes, mais c'est eux qui sont à l'initiative, donc on est très fiers d'eux, mais ça n'a rien à voir avec la famille au niveau de... Voilà. Mais bon, on est fiers d'eux, surtout parce qu'ils le pratiquent depuis des années. En fait, l'équipe qui sort ses coffrets, ensemble avec un jeune implanteur qui travaille à Lyon et qui est un graphiste professionnel, qui s'appelle Jean Schott, et donc ils ont formé une petite équipe, ils ont trouvé un éditeur. C'est surtout que, à la fois Jean Schott en ville, donc à Lyon, dans un endroit très sécularisé, très bobo, et nos jeunes qui sont à côté d'Amiens, mon gendre, il est médecin généraliste et implanteur d'église, et notre fille, ils ont leur vie normale, et ils ont testé ça
pendant plusieurs années avant de le lancer sur le marché, en étant conscients, eux, ils avaient commencé des cours alpha. Tout à midi, on parlait un peu de ça. Et en fait, ils voyaient que ça marchait de moins en moins bien parce qu'ils avaient de moins en moins de gens dans leur entourage qui étaient prêts à entrer dans une logique de réflexion de type un peu catéchisme, quoi. Et par contre, quand ils ont parlé à leurs amis de la possibilité d'avoir des réflexions spirituelles à partir de la Bible, mais avec donc des thèmes de la vie normale, ils ont vu que les gens se laissaient inviter. Donc, ce matériel, il n'a aucune utilité si les chrétiens ne sont pas prêts à avoir des amitiés et à inviter leurs amis. Voilà. Il ne faut pas surestimer la...
C'était la question d'Olivier, mais les gens ne vont pas tenir. C'est ça, hein.
Oui, parler un petit peu aussi après le culte.
C'est vraiment fait pour nos amis. Mais tu vois, tu peux... Ça peut quand même aider quelqu'un qui n'y pensait pas trop ou qui n'ose pas trop si plusieurs disent « mais nous, on est prêts ». Et par exemple, on est deux familles chrétiennes et on prie les uns pour les autres et on prie pour nos amis et on se met dans les starting blocks pour dire « nous, maintenant, concrètement, on voudrait créer dans la maison d'un des deux ou voilà, au moins dans notre quartier, on voudrait créer un groupe mixte à partir de la rentrée ». Et donc, c'est de dire, ben nous, on prépare le terrain, tout le printemps déjà, avec des gens avec qui on travaille ou qu'on connaît au quotidien, on va commencer à dire, écoute, depuis le temps, tu sais que je suis chrétien, depuis le temps que de temps en temps, on parle un peu de ça, est-ce que tu serais partant pour qu'on crée un groupe de réflexion avec à chaque fois un éclairage biblique autour de, par exemple, ces valeurs-là? On peut donner quelques exemples pour que les gens sachent où ils mettent les pieds. En leur disant, c'est à chaque fois avec un éclairage biblique. Est-ce que tu serais partant? Et c'est comme ça qu'eux ont lancé des groupes et ils continuent à lancer des nouveaux groupes, quoi. Voilà, c'est en ce sens-là que le matériel, il aide. En plus, il y a des petites cartes sympathiques pour inviter et tout, donc ça aide. Mais encore une fois, le matériel, il sert à rien si vous n'avez pas des gens motivés dans l'Église qui ont des amis non chrétiens. Mais ça peut être l'occasion de mobiliser un peu plus. Et nous, les retours qu'on a de pas mal de groupes maintenant qui font ça, c'est dire finalement, c'était presque plus simple que ce qu'on pensait, d'inviter nos amis. À partir du moment où on leur a dit, mais ce n'est pas des inconnus qu'on invite, c'est vraiment des amis ou des collègues. Mais certains étaient surpris que leurs collègues se laissent inviter, disant jusqu'à maintenant, on était très informel. Mais puis on peut, selon notre tempérament, on les encourage. Et après, une fois qu'ils viennent, dans le livret, on explique pas mal et on dit, en général, il y a une ou deux soirées où on se décide si on va continuer ou pas. C'est aussi pour mettre les gens à l'aise, viens voir. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un groupe de chrétiens qui invite des amis non chrétiens. On crée le groupe uniquement si on sait qu'on a au moins la moitié de non-chrétiens. C'est quand même... Il faut être assez strict sur certaines règles, parce que sinon, on reste dans quelque chose qui est trop top-down. Il faut vraiment... Mais là, on dit... Et en fait, le non-chrétien, il est aussi, en quelque sorte, membre fondateur du groupe, quoi. Bon, c'est pas lui qui prend la première initiative, mais vous voyez l'esprit un peu. Voilà. On se met volontairement dans cette logique, on crée un groupe découverte ensemble.
Je crois que tu as raison, parce que Olivier était un des premiers à démarrer les cours alpha ici avec Delérys. Et au début, il y avait quelques inconvertis qui venaient, mais il y avait des chrétiens qui venaient, qui ont tout cassé.
Oui.
Parce qu'en fait,
ils ont freiné les choses.
Oui.
Ils venaient avec leurs connaissances, et ils pourrissaient en fait le groupe en sortant leurs connaissances, tout ça. Ce qui fait que les inconvertis, c'est ça, hein.
Surtout chez Bruno, ça a été le cas.
Oui, c'est vrai qu'on a plutôt des chrétiens un petit peu sur le déclin qui voulaient juste discuter, quoi.
Oui.
On n'avait pas de vraiment.
Mais oui. Mais oui. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même, premier ingrédient, des chrétiens, mais c'est très chouette si vous. On n'a pas besoin non plus que toute l'Église le fasse, voyez. il vaut mieux prendre, si vous avez la chance d'avoir quelques familles, c'est même pas une question d'âge, mais il faut être un peu ouvert d'esprit et il faut avoir des amis non chrétiens. Donc allons de l'avant avec eux. Voilà. Et donc, dans un écosystème, c'est un des éléments qu'on peut faire avancer un peu plus vite que, par exemple, certaines modifications du culte. Si le conseil, après avoir fait le bilan de l'écosystème, dit qu'il faudrait quand même qu'on travaille sur certains aspects du culte et tout, mais les petits groupes mixtes, vous pouvez les lancer en grande liberté à partir du moment où vous avez quelques familles, justement. Si vous avez deux familles, bon, ça vous fait 4 adultes, et vous trouvez au moins 4 autres adultes, ou même 5 ou 6, et vous formez un groupe de 8-10 personnes. Et si, voilà, en préparant le terrain au printemps, pour dire au mois de septembre, et en fixant les dates avec les amis non chrétiens, pour que ce soit vraiment leur groupe, quoi. Parfois, c'est même une famille non chrétienne qui ouvre sa maison pour dire, ben, nous, venez chez nous, parce qu'on a quand même plus de place, etc. Donc, tout ça, c'est très chouette. Se mettre d'accord, est-ce que de temps en temps, on veut manger ensemble, ou à chaque fois, on prend un petit quelque chose au début de la soirée, ça dépend du boulot, des uns et des autres. Des gens, après, il faut voir un peu le niveau social, mais... dans certains groupes, les deux, hommes et femmes, tiennent absolument à être présents les deux, et ils embauchent une nounou une fois par mois pour pouvoir être là. Bon, il faut vivre un peu dans son milieu social et s'adapter. Et une fois qu'ils sont là, à part peut-être de temps en temps quelqu'un qui dit finalement pour moi c'est un peu trop fort, mais les autres, ils sont étonnés par la richesse des discussions. On est aussi à une phase où beaucoup de gens cherchent des amis vraiment authentiques, quoi. Ils nous disent, j'ai plein de connaissances, et j'ai 500 amis sur Facebook, mais j'en ai peu où je peux un peu ouvrir mon cœur, quoi. Voilà. Mais les chrétiens doivent effectivement, il y a une certaine philosophie. Il y a des chrétiens, c'est peut-être trop tard, où ils peuvent pas se... Voilà, ils sont toujours dans le top-down, quoi. Ils veulent toujours enseigner les autres. Et là, on est dans une logique où on n'enseigne pas les autres, on découvre ensemble, et pour le chrétien, il redécouvre la richesse de l'évangile, quoi. Après, on ne triche pas. Eux, ils savent très bien que l'animateur, il a une longueur d'avance, et on veut bien. Mais on n'est quand même pas professeur et les pauvres ignorants, quoi. On a tous, et en prenant des choses, c'était ça la philosophie, si vous prenez un enseignement sur Dieu, Jésus, etc., c'est quand même assez complexe pour pas mal de nos contemporains, donc vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique tout ça. Mais en prenant la porte d'entrée d'une valeur, tout le monde a des choses à dire, et tout le monde a de bons et de mauvais exemples sur l'honnêteté, sur...
Vous citez peut-être des valeurs. Il y a plusieurs coffrets comme ça. Émotion,
voilà, il y en a deux pour l'instant, et l'été prochain, il y a le troisième qui sort. Ouais.
Mais là, c'est l'amour, la confiance, le pardon, l'encouragement, la sagesse, la patience, le respect, le don de soi, la justice.
Wow. Ouais, ça permet d'entrer dans le concret après. Mais en même temps, les gens, ils ont des choses à partager. Vous voyez, ils ont des anecdotes. Hein. Et donc, on se met volontairement. Voilà. Oui. Et donc avec les émotions qui marchent très bien avec les retours que j'ai. Voilà. Et donc la prochaine série qui va sortir, ils sortent maintenant une série, je ne sais pas combien de temps ils vont faire ça, mais pour l'instant l'idée c'est de permettre aux groupes qui ont commencé d'avoir du nouveau matériel pour un an, en faisant une fois par mois. Voilà. Mais je crois qu'on se comprend bien, il ne s'agit pas de... Pour moi, c'est un outil qui aide, mais ça ne sert à rien si on n'a pas compris le principe missionnel du... Voilà. Si, voilà, si.
C'est pas parce qu'on va l'appliquer qu'il va y avoir de résultats.
Oui. Moi, j'ai eu deux cas. Un cas où quelqu'un a dit, mais nous, on trouve ça super, on va le faire entre nous, chrétiens. J'ai dit, mais voilà, pour ça, je peux vous donner 50 autres... Vous passez à côté de l'essentiel, quoi. Voilà. Et les autres qui ont essayé de le faire, mais sans aller au bout de la logique, c'est-à-dire ils étaient quand même 80% de chrétiens, ils ont invité un ou deux non-chrétiens et ils trouvaient que ça ne marche pas bien. Ah ben oui, les amis, Ah.
Parce qu'il les écrasait, en fait.
Et bien sûr. Et bien sûr, et fatalement, quand en lisant un texte que le chrétien avait déjà lu et il avait peut-être même prêché dessus, il avait très 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 envie de toujours dire « mais en fait en grec ça veut dire ça et ceci, cela ». Et il a perdu les amis non-chrétiens en quelques minutes, quoi. Non, il faut un peu de retenue. Mais vous le savez, il y a dans les églises, on aime tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qu'il faut écarter d'un tel système. Voilà. Mais à un moment donné, si on fait toujours la même chose, il ne faut pas espérer un résultat différent. Il y a un prix à payer. Voilà. Mais c'est globalement tellement positif, même pour des gens qui, eux, ne participent pas directement, peut-être parce que ce n'est pas trop leur truc ou parce qu'ils n'ont pas le temps et autres. Quand ils entendent parler après, et peut-être même quand ils verront de temps en temps quelqu'un de supplémentaire ni au culte, mais ça encourage toute la communauté. Pas de stress si tout le monde, voilà, c'est une méthode où on peut, là je parle des petits groupes et pas des coffrets, mais c'est une chose qu'on peut améliorer dans un écosystème en laissant le reste encore un peu continuer. C'est comme les petits groupes de croissance. Moi j'ai jamais vu une église où tout le monde a lancé un petit groupe de croissance. C'est aussi une question de génération. Pour les hommes d'une certaine génération, dont je suis moi, c'est pas habituel d'être dans une telle redevabilité, intimité, etc. On n'a pas été éduqué comme ça. Je dis pas qu'on peut pas aller un peu plus loin, et puis la foi chrétienne assouplit beaucoup de choses. Mais par contre, je vois que c'est assez naturel pour les jeunes. Ouais. Donc c'est déjà très bien. Si, avec ceux qui veulent, c'est plus naturel... Je ne veux pas être enfermant dans des cases, mais c'est souvent plus naturel pour les femmes que pour les hommes d'un certain âge. Et c'est pour garçons et filles beaucoup plus naturel pour les plus jeunes. Qui se sentent parfois plus seuls aussi que ce qu'on pense dans leur témoignage. Hein. Merci beaucoup pour vos bonnes questions et remarques. Autre chose encore ?
Alors moi, je suis intéressée par les relations entre les différents, les différentes bulles là.
Oui.
Ça plaît parce que c'est vraiment chose. Ça met des mots sur chose que je ressens.
Mm-hmm.
Le besoin que tout ce qu'on fait profite à tous les autres.
Oui.
Et ça, c'est chouette. Et je pensais, je m'occupe pour l'instant en tout cas, encore des ados. Des jeunes ados, hein, 6e à 3e en gros. Hein. Et j'ai toujours eu à cœur qu'ils aient un contact avec l'Église. Parce que, bon, tous les gens à partir de 22 ans sont des vieux pour eux. Donc, je me disais, bon, il faudrait qu'ils connaissent les vieux, qu'ils connaissent leur témoignage, entre autres. Donc, ce que j'ai fait pendant un temps, j'ai fait venir le dimanche matin des gens de l'Église pour qu'ils racontent comment ils sont venus au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie autrefois avant de venir à l'église et qu'est-ce qu'ils font de leur vie actuellement. Et j'ai trouvé que ça créait quelque chose, effectivement, parce que les vieux, donc les plus de 25 ans, ça parlait aux jeunes et je disais, finalement, ils sont sympas, ces jeunes. Et puis inversement, les jeunes, bon, finalement, ils ne sont pas aussi nuls que ce qu'on croyait. Voilà. C'est comme ça hein, qu'ils voient les choses à cet âge-là. Et... c'est la seule chose que j'ai trouvée, mais je suis sûre qu'il doit y en avoir d'autres, pour qu'il y ait des liens plus forts entre un groupe bon, d'école dimanche de grands avec tout le reste aussi. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus.
Voilà. Non, mais c'est une excellente idée. Moi, j'ai une autre définition pour la vieillesse. Sont vieux tous ceux qui sont plus âgés que moi.
C'est ça.
Non.
C'est ça.
Oui, il faut voir avec qui on est et quels sont nos talents. On pourrait imaginer, il y a aussi certaines troisièmes portes qui sont des lieux de service commun où c'est très impressionnant pour des ados de pouvoir apporter une contribution qui est très appréciée par les plus âgés, de parler de leur expérience de vie, etc. Oui, oui. Donc ben ça, il faut effectivement adapter. Hein. Mais je trouve l'idée très intéressante de provoquer un petit peu ce moment de témoignage, parce que je crois, oui, il y a beaucoup de jeunes, où les âgés pourraient être presque gênés en disant nous on est un peu largués quand on voit ce qu'ils font et comment ça marche avec l'informatique et tout. Et on sous-estime parfois leur besoin de voir des modèles, d'entendre. Évidemment, ils aiment les personnes d'un certain âge qui ne sont pas coincées, quoi. Donc voilà, il faut voir si on a ce talent. Mais...
Même les gens coincés, ils s'aperçoivent que parfois...
Oui, mais je veux dire...
Quand on les connaît,
oui. Non, non, mais c'était un peu un raccourci, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour eux, l'Église, souvent, c'est ça aussi, ils apprécient. Après, ça vient quand même cette question, bon, pour un ado qui est converti et qui veut vraiment témoigner, c'est quand même extrêmement difficile d'envisager d'amener un camarade de classe adolescent d'emblée au culte, par exemple. Là, la marche, elle est vraiment très, très haute. Parce qu'en plus, il y a oui, une question de rythme, etc. C'est pour ça que, selon, on connaît une église où c'est vraiment très jeune comme ambiance, et aussi la deuxième, My Gospel Church, où un jeune peut plus facilement inviter quelqu'un. Mais je ne dis pas que toutes les églises devraient faire ça. Par contre, là où je pense qu'on peut, à beaucoup d'endroits, pourrait faire des progrès, c'est de permettre que les activités qui touchent les ados et les jeunes soient missionnels dans le sens qu'ils peuvent amener leurs camarades. Nous, on a 7 petits-enfants, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais on a 4 filles d'une famille en Seine-et-Marne. Et ils sont dans une église où les leaders de jeunesse ont parfaitement compris cela. D'abord, ça fonctionne assez bien chez eux avec le culte et tout. Mais surtout, leurs activités jeunesse sont ouvertes aux amis des chrétiens, de ceux qui sont là. Enfants de chrétiens, qu'ils soient convertis ou pas, mais grâce à Dieu, beaucoup sont convertis. Et donc, ils peuvent inviter leurs camarades. Nous, on discute avec nos petites filles, bon, qui sont déjà assez grandes pour plusieurs. Et qu'est-ce que je suis heureux de les entendre dire « Voilà, j'ai réussi à inviter tel camarade de classe ». Ils appellent pas ça groupe de jeunes, ils ont des noms un peu plus fun, hein, mais ils invitent, ou quand on va chez eux, de voir autour de la table une camarade de classe qui connaissait même pas l'existence de tout ça et qui par l'amitié s'est laissée entraîner. Mais ce qui me réjouit le plus dans la discussion dans laquelle on est, c'est de voir que eux voient leur église comme un partenaire qui les aide à réaliser leur témoignage, voyez. On les laisse trop... Le jeune, il ne peut pas se battre tout seul. Et voilà. Je ne me souviens plus si je l'ai dit au Mureau, mais un des trucs qui m'a le plus choqué ces derniers mois, c'était le sondage que le CNEF avait fait, où il a interrogé les chrétiens quant à leur témoignage au travail. Et à un moment donné, ils ont posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous vivez dans votre témoignage au travail avec votre église ? 72% des bons évangéliques français ont répondu dans ce sondage du CNEF qu'il n'y avait aucun lien entre leur vie en semaine et l'Église. Là, on perd énormément, quoi. Là, on n'est vraiment pas dans la flèche, quoi. Vous voyez ? Et ça, il faut déjà penser aux jeunes. Comment on peut les aider dans le sens que l'Église est leur meilleur partenaire ? C'est ça aussi qui va les attacher à l'Église. Parce qu'ils vont grandir avec cette conscience. Moi, je ne peux pas être un disciple sans Église, parce que heureusement que les leaders de l'Église aident à prolonger mon témoignage. Et ça, je trouve super quand on évalue, par exemple, le travail de jeunesse. Est-ce que c'est un travail de jeunesse missionnel ? Ou est-ce qu'on est, nous... Il y a ce souci d'enseigner nos enfants et de les aider dans ce monde un peu fou, c'est bien. Mais on devrait aller un peu au-delà. Leur vie inclut aussi le fait d'être disciples dans ce monde fou. Et comment on peut voilà, les aider un peu. Oui.
Ma fille Daniela, Isabelle aussi, mais quand elle arrive ici à la France, elle connaît un fils qui habitait à côté de nous, quand nous habitions à Moulin. Et la fille, elle dit qu'elle est athée, qu'elle ne croit pas en Dieu. Aujourd'hui, elle est très amie de Daniela. Aujourd'hui, elle dit, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Et elle parle, elle raconte toute l'histoire et tous ses problèmes à Daniela.
Ah ouais.
Et elle ne vient pas à l'église, mais elle appelle Daniela pour prière, pour aider-moi.
C'est super. Et c'est là qu'il faut justement, si on peut rajouter ce prolongement, c'est top. Parce que c'est aussi Daniela qui va être encouragée. Dans le sens que mon église, c'est mon meilleur partenaire, quoi. Ça attache aussi les gens à... Voilà.
Et donc, il faut réfléchir à partir de là. Quelle est l'activité de l'église qui pourrait aider à cette jeune fille de venir et de se sentir bien?
Oui, ou simplement des activités qui existent, probablement. Mais comment peuvent... Est-ce que les leaders sont conscients que ça fait partie... C'est pas un programme tout fou pour, comme si on n'avait pas le droit de le parler de la Bible et on va seulement avoir des jouer au bowling. Vous voyez, il y a là, ils osent plus parler aux jeunes comme, mais les jeunes sont intelligents. Quand vous regardez leur programme en terminale, allons-y, donnons-leur de la nourriture, quoi. Mais dans un esprit suffisamment ouvert pour qu'ils disent, oh, heureusement que moi j'ai ce groupe de jeunes. Et en plus, je sais que je peux, dès que c'est possible, c'est pas facile, mais dès que c'est possible, je peux amener un ou une camarade et ça se passera bien, quoi.
Curieusement, souvent, les jeunes amènent des tas de copines, de copains, le jour de leur baptême.
Ah oui, ça, oui.
Oui,
oui.
Oui, c'est très bien.
C'est incroyable.
Mais là, je parle dans la durée, mais c'est bon signe, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Oui.
C'est aussi, Isabelle et Daniela m'ont dit que le groupe de jeunes va faire quelque chose pour inviter les amis, ouais, les amis de lycée ou de collège pour un jour de porte ouverte à l'église.
Oui, mais ça devrait être, selon moi, dans les programmes ordinaires. On n'a pas toujours besoin de rajouter quelque chose. Ça devrait être une espèce de réflexe, parce que vous ne pouvez pas toujours organiser les choses. Vous avez parfois une discussion avec quelqu'un, et ça vaut aussi pour les adultes, et il ne semble pas très ouvert. Et une semaine, il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que vous sentez que là, je pourrais l'inviter. Et vous avez, c'est là, c'est dommage si vous devez attendre 2 mois pour avoir un événement, vous voyez? Il faudrait que ce soit dans la vie normale de l'Église. C'est ça un peu le côté missionnel. Hein.
Daniel, ça veut dire que peut-être il faut... moi, je pense que c'est important, comme tu l'as dit, de faire d'abord examiner bien les choses.
Oui.
Comment marche l'Église.
Oui.
Et...
Mais pas compliqué. Ce n'est pas, pour moi, un travail qui dure des années. Hein. Comme je vous dis, en 2-3 week-ends, ou en mettant avec le conseil, en partant une journée au vert, et en disant, là, on se concentre sur la question, par exemple, de notre écosystème, comment il fonctionne, et après, on prend du recul et on dit qu'est-ce qui serait notre écosystème idéal. Et ça veut dire, pour chaque activité, on sait à quoi elle sert, comment elle va fonctionner et quel est l'objectif qu'on va essayer de mesurer après. Oui, vous avez déjà abattu beaucoup de travail.
Parce que je pense que dans ce groupe des gens, on pourra déjà, comme tu l'as dit, c'est pas de créer des événements, c'est de créer une ambiance
oui, simple. Dans les activités, voilà. Si après vous créez, mais ça c'est peut-être votre habitude, vous créez 2-3 fois par an un événement pour que toute la population sache que c'est ouvert, que vous êtes sympa et que vous vous intéressez. Oui, moi je suis pas contre les événements quand c'est quand on y met de l'énergie de manière raisonnable et quand on n'appelle pas ça forcément de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est beaucoup plus le quotidien, quoi. Mais un petit peu d'éclat, je sais pas comment vivent les gens ici, ils ont l'air très discrets, hein, on n'entend rien. Mais il y a des endroits où une église, je sais pas si vous avez un terrain ou pas.
Un petit terrain.
Non, mais il y a des églises, elles cherchent parfois à vouloir organiser des trucs. Je leur dis, mais faites une kermesse, faites une fête un samedi, faites un truc. Voilà. Parfois, on cherche trop loin. Les gens, ils ont besoin d'amitié, de signaux amicaux. Et puis après, derrière, il faut des activités adaptées. Quoi. Ouais.
Je pense que c'est bien, c'est ce que je pense, qu'on a besoin d'un petit cafétéria à l'entrée de l'église pour que les personnes, quand elles entrent, inviter les personnes qui entrent plus tôt, tomber un café, un croissant.
Oui, ça c'est souvent sympa, oui.
Aussi, c'est sympa parce qu'on peut inviter quelqu'un et on tombe le café, voilà, on a après un culte. Et aussi, après, quand c'est fini le culte, on pouvait parler un petit peu de... Voilà,
ça dépend de vos possibilités et c'est très culturel, hein. Et ça dépend de l'endroit où on est, mais bon, Vous fréquentez, j'imagine, quelques activités ici de concerts et autres. On regarde un peu comment ça se fait. Oui, il y a des églises où... Oui. Mais je veux dire, la manière dont on l'organise, il y a des différentes écoles en fonction... Là, il faut travailler avec le lieu où on est et puis avec les talents qui sont disponibles. Il y a beaucoup de choses qui seraient bonnes et on ne peut pas tout faire, sinon on est écrasé par notre programme.
Après, il y a cette fameuse troisième porte. C'est sympa de le poser comme ça. Au début, avec André, on a essayé de participer. C'est une ville ici, riche, pose le Renault, et qui a énormément de jumelage. Donc, on s'est forcé de participer à un jumelage avec la ville de et on espérait plus de fruits, mais on s'est dit, bon, effectivement, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'était quand même une prise de contact avec la commune. Parce que c'est très fort, hein, les jumelages, c'est des fêtes énormes. Et puis, on voulait aussi participer au jumelage avec l'Angleterre, puisqu'on a quelques Anglais dans l'église, à l'époque. Après, ça prend pas mal. Hein.
Oui.
Fatigant.
Oui.
C'est vrai qu'on a des contacts, mais voilà, c'est...
Pour moi, ça vient, et vous l'avez compris, même dans la présentation, ça vient après. Donc, il ne faut pas surestimer. Certains, ils pensent qu'on reste un peu sur le mode d'évangélisation d'autrefois, événementiel. Et donc, la troisième porte, c'est un peu vu par réflexe. On a l'impression qu'il faut faire quelque chose. Non, il faut d'abord ouvrir, comme on l'a dit ce matin, il faut d'abord ouvrir les yeux sur les gens qui sont là. Voilà. Et si on a le temps, on rajoute éventuellement quelque chose, mais il ne faut pas que ce soit trop chronophage. Mais ça, ce que tu dis me permet de préciser quelque chose. Il faut faire la différence entre ce qui fait partie de l'écosystème ecclésial, qu'il faut quand même organiser, au moins au niveau des principes, et ce qui relève du rayonnement plutôt des individus. Et c'est sûr que moi, aujourd'hui, je mettrais par exemple le jumelage beaucoup plus dans la catégorie de ce que l'une ou l'autre famille de l'Église a à cœur de faire. L'écosystème, c'est ce qu'on s'engage à faire communautairement et on réfléchit à ça. Mais ça n'empêche pas les uns et les autres d'avoir des activités de relationnelles, mais en fonction de leur intérêt plus personnel. Voilà. Et ça ne fait pas forcément un élément de la vie de l'Église, parce que le jour où tu ne veux plus aller au jumelage, où ça s'arrête, ce n'est pas une activité de l'Église qui est en souffrance, quoi. Il faut parfois, quand on élague un écosystème, ça je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais parfois la version élégante, c'est aussi dire, écoute, tu as ça à cœur, mais ce n'est pas en tant que telle une activité de l'Église qu'on annonce et que pour laquelle on cherche du renfort, etc. Mais on bénit le Seigneur pour ton ministère et le cœur que tu y mets dans cette activité. On privatise un tout petit peu certaines activités. Oui, oui, tu voulais intervenir?
Oui, mais c'était super. Moi, je suis nous, on connaissait un petit peu cette structure parce qu'on a habitué comment ça se passe. L'Église coréenne est toujours à la base de comme ça, 5-6, petits groupes et tout ça. Pour moi, je crois que vous avez dit deux mots très essentiels que ça me touche beaucoup, et conscience et partenarité. En gros, que moi, je vois dans notre Église, partenariat, oui. Parce qu'on doit être conscient de ce qu'on a maintenant. On a vraiment les gens, l'Église, quand on voit que chaque leur place qui fait de bonnes choses. Donc, tant que, voilà, un pasteur ou quelqu'un qui a responsabilité, trouver les gens et bien utiliser, en fait, les a dans la place. Mais parfois, on ne le voit pas parce qu'on est trop près. On ne le valorise pas, je trouve. Donc ça, et par exemple, voilà, je trouve que, par exemple, Olivier, il est doué quelque chose, je vois, il fait beaucoup. Mais il est à côté, donc je crois qu'à l'Église, il va bien profiter Olivier, par exemple. Voilà. Des choses comme ça, c'est conscience et partenarité. On a parlé par rapport aux partenariat. Et par rapport aux adolescents, mais ce n'est pas que l'adolescent. Je crois que même moi, je me mets maintenant en louange. Mais pour le louange ou quelqu'un qui fait dans son coin quelque chose, vraiment, On aimerait bien soutenir par l'Église, même on n'est pas parfait, on n'est pas encore arrivé le top, mais c'est très important pour sentir qu'on peut soutenir et on va... Bah, on peut pas... Bah, voilà, tu vas bien, tu vas le faire dans ta place, voilà. Toi, tu es en charge, tu le fais. Au lieu de laisser comme ça, oui, bah voilà, on peut donner, si c'est pas gentiment, si tu as besoin de donner conseil pour améliorer mieux. Voilà, ça... Chacun doit sentir leur place de l'Église pour sentir ce partenariat.
Partenariat, oui. Mais on a compris, il n'y a pas de souci.
Ça, c'est, je crois, que très important pour... Du coup, oui. Ça donne l'énergie chaque côté et ça va tourner bien.
Oui, merci beaucoup. Et ça me permet de prolonger dans le sens que quand vous avez une définition par écosystème, vous comprenez aussi que tout le monde n'a pas besoin d'être partout. Vous voyez, c'est aussi une manière de trouver sa place. Tout à l'heure, on a échangé deux mots sur un peu le discipulat. Selon moi, c'est une aide considérable, pas seulement pour toucher le monde, mais aussi pour faire des disciples. Parce que du coup, on peut réfléchir quels sont les éléments qui sont nécessaires pour qu'un disciple grandisse. Alors, il a besoin d'un suivi individuel, donc il faut... Voilà. Il a besoin d'un enseignement, mais il a surtout besoin de mettre en pratique ce qu'il apprend. Donc, vous voyez, si vous avez ces différents systèmes, vous le conseillez, vous l'aidez. Probablement, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils prennent assez vite l'habitude, par exemple, de participer à la célébration pour qu'ils soient nourris, qu'ils soient encouragés par les autres, qu'ils voient des vieux et des jeunes, etc. Après, il faut voir, probablement, c'est très intéressant pour lui d'intégrer un groupe de croissance où il prie avec deux autres hommes, si c'est un homme ou une femme, etc. Et ensuite, il faut voir qu'est-ce qu'il a comme temps, si c'est un étudiant et en plus il va au GBU, il faut tenir compte de ça. Il faut qu'il ait un peu son propre écosystème, mais en fait, cet écosystème doit inclure qu'un suivi individuel ou par petit groupe, il doit inclure une nourriture biblique pour qu'il grandisse, mais pas chronologiquement comme d'abord c'est que de la théorie pendant 5 ans et puis après la mise en pratique. Il faut que d'emblée on réfléchisse avec lui, qu'on l'aide, comment moi je peux devenir un témoin, parce qu'on n'a pas besoin de connaître toute la Bible pour devenir un témoin. Et pour moi, quand on a un système simple mais quand même assez complet, on peut voir avec le disciple pour qu'il ait cette chance de recevoir et de donner. C'est très important pour grandir dans la foi de pouvoir donner, pas seulement recevoir. Et pour moi, voilà, il peut éventuellement être, s'il a la disponibilité une fois par mois, peut être dans un petit groupe mixte, il peut donc être dans un groupe de croissance, on l'encourage à venir régulièrement au culte, à la célébration, et on réfléchit avec lui, surtout celui qui fait le suivi individuel, par exemple, il réfléchit avec lui quelle est sa place dans l'église dispersée, avec qui est-ce que tu es en contact en ce moment, etc. On laisse souvent les gens trop seuls sur la partie service, quoi. Ou les seuls services qu'on leur propose, c'est des services qui ont lieu dans la salle de l'église. Et en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est lui, c'est qu'il trouve sa place dans le service, dans le monde, mais pour ça, il faut le soutenir dans la prière. Oui, et puis aussi peut-être le relever. En disant là, il dit, oui, mais je me suis fait repousser par la moitié de ma famille, etc. Donc, il faut à la fois être à l'écoute et solidaire, mais peut-être aussi lui dire, écoute, la prochaine fois, réfléchis un peu, peut-être tu pourrais t'y prendre autrement. On a besoin d'être accompagné. Mais le discipulat, ce n'est pas uniquement la formation théologique.
Voilà. Aussi de travail, parce que... Por ejemplo, yo me encargo, soy la responsable de la decoración.
Oui.
Yo cherche quelqu'un, en este momento yo pongo en quelqu'un de allá por enseñar, porque el jour que yo n'ai pas là, la persona es responsable.
Oui.
Voilà.
Oui, mais j'insiste beaucoup sur ce que le service pour la plupart des gens, ce n'est pas ce qui se passe dans les quatre murs de l'église, c'est vraiment dehors, quoi. Merci pour vos bonnes idées et suggestions.
Juste une petite question sur les générations.
Oui.
Je connais l'Église depuis un petit moment. Il y a un moment où on d'arriver un peu plus à faire des activités communes et intergénérationnelles.
Oui.
Ça m'a beaucoup plu, beaucoup touché, puis ça a participé à ma croissance. C'est un très bon encouragement pour moi, plus jeune, de parler avec des plus âgés, puis aussi des plus jeunes. Voilà. Et donc, voilà, c'est, je n'ai pas analysé comment ça s'est passé, pourquoi on y arrive un peu moins maintenant, mais comment on peut arriver à faire des activités qui sont passionnantes pour toutes les générations, où on a un réel plaisir d'être ensemble pour servir le Seigneur, de, quel que soit son âge, en fait, du plus petit au plus âgé.
Oui.
On avait une équipe de foot de 9 ans à 60 ans, mais c'est quand même restrictif, parce que c'est pas toute l'Église. On invitait aussi des non-chrétiens, on a pu jouer avec des non-chrétiens. C'est une troisième porte, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Pour avoir, ça excluait d'emblée tout un tas de gens qui n'étaient pas intéressés par ça.
Oui, il faut analyser. Est-ce que c'est un changement ou est-ce que c'est un manque? Voilà. Parce qu'il y a aussi des changements dans les familles, etc. Même si en France, on reste encore très, très traditionnel par rapport, par exemple, au repas de famille, ça étonne une grande partie du monde de savoir qu'en France, les familles mangent ensemble à des heures fixes et que le dimanche, les jeunes apprécient même, pourquoi pas, manger avec mamie. Dans beaucoup de, ça n'existe plus, beaucoup d'endroits. Donc, il faut voir, est-ce que c'est un changement à un moment donné où ça serait trop demandé de lutter contre, ou est-ce que c'est un manque? Et si c'est un manque, il faut voir effectivement où est-ce qu'on place ça. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai mentionné ici, par exemple, les groupes mixtes de maisons. Ça, selon moi, ça peut être un lieu de vie intergénérationnel. Mais là, il faut voir quel est le pourcentage d'étudiants. Ou est-ce que c'est réaliste? Ça dépend aussi où ils habitent. Mais effectivement, il y a ça. Peut-être dans les petits groupes, il y a au moins le culte. Après, ça dépend si l'Église fait un week-end par an. Il y a des endroits où est-ce que il faut si ça manque et on peut pas le faire dans des activités réellement communes, est-ce que dans ce cas-là, on mise beaucoup sur les repas d'Église ou est-ce qu'on fait un système où au moins pour quelques mois, par exemple, on peut aussi varier les plaisirs, mais pour quelques mois, on force un petit peu en disant les familles peuvent inviter des jeunes qui... ils invitent un peu d'autres jeunes à leur table. Il faut analyser, et puis avec nos possibilités, corriger ce qui apparaît comme un manque. Mais il ne faut pas non plus trop idéaliser. Dans certaines églises, on voudrait tout faire. Et je ne sais pas combien vous êtes en vitesse de croisière, mais il faut être réaliste aussi. Sinon, on n'a pas la liberté d'être avec les amis non-chrétiens. Il ne faut pas idéaliser aussi la participation des associations. Voilà, c'est...
On ne va peut-être pas trop prolonger,
oui.
On est un peu fatigué. Juste pour conclure, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous aider à passer le message aux autres chrétiens? Qu'est-ce que ça veut dire missionnel pour toi? Comment est-ce que tu le définirais simplement? Parce que c'est un nouveau nom, c'est un néologisme. Les gens, est-ce que c'est missionnaire?
Oui.
Etc. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose qui peut résumer tout ça?
Oui, j'ai quelques petits textes.
Petit papier qui pourrait être joint à l'envoi.
Après, je me bats pas pour le terme missionnel, mais il est assez intéressant. Donc, missionnaire, c'est une activité, et missionnel, c'est une nature. Voilà. Ça veut dire, c'est l'être de l'Église. Voilà. Mais j'ai écrit ce petit texte que je peux t'envoyer, parce que tu n'es pas le premier à me demander un petit résumé. Donc, dans la compréhension classique, une Église locale agit essentiellement vers l'intérieur. En règle générale, on y est entre soi, sauf événements exceptionnels. De son côté, le témoignage de foi des chrétiens auprès des collègues et amis non chrétiens est souvent vécu comme une démarche solitaire, déconnectée de la vie de l'Église. Faut-il rappeler que, bibliquement parlant, l'Église n'est pas seulement une Église lorsqu'elle est réunie dans les quatre murs de son bâtiment ? Point d'interrogation.
Une église missionnelle évite la séparation entre vie d'église et vie normale. Elle relie le mode église réunie, généralement quelques heures le week-end, et le mode église dispersée dans le monde, c'est-à-dire les chrétiens individuels dans leur lieu de vie respectif le reste de la semaine. En articulant de manière intentionnelle ces deux dimensions, l'Église est en permanence naturellement proche, au travers de ses membres, des collègues, voisins et autres amis non-croyants. Et lorsque la communauté se rassemble lors des réunions, tout est pensé pour édifier les chrétiens et permettre à leurs amis en recherche de venir librement avec eux et de découvrir Jésus à leur rythme. Une telle approche, culturellement pertinente et efficiente, est une bonne nouvelle pour les chrétiens et une bonne nouvelle pour leurs amis pas encore croyants. Voilà, c'est vraiment cette articulation. Et l'écosystème, pour les leaders en particulier, est un peu ce levier pour activer ça. Moi, je ne vous encouragerai pas à travailler sur l'écosystème toute l'Église. Je crois que c'est vraiment le rôle des leaders, après à vous de voir jusqu'où vous tirez un peu les contours de cela. Mais je crois que c'est vraiment le rôle d'abord de définir, d'analyser, de définir et après de proposer des choses. D'autant plus qu'on n'invite pas tous les chrétiens à être partout. Au contraire, il faut qu'on trouve sa place. Voilà.
Pour le dire autrement, je ne sais pas si tu me corrigeras, mais avant, il y a 40, 50 ans, on témoignait, on évangélisait, donc en fait, on n'avait pas besoin de ce terme-là. Et ce terme est nécessaire maintenant parce qu'il faut réfléchir, en fait. Ce n'est pas naturel, en fait.
Le terme missionnel.
Oui, missionnel.
Oui.
Alors, il faut réfléchir parce que, comme on est dans post-chrétien et post-moderne, et post-tout ce qu'on veut,
ouais.
On est obligé, en fait, de réfléchir avant d'agir.
Oui. En fait, c'est l'occasion. En fait, ce qui était anormal, c'est les 16 siècles de chrétienté.
Anormal.
C'était anormal. On est, parce que, bon, c'était un certain succès du christianisme culturel. En fait, normalement, l'évangile aurait dû se propager par des gens qui deviennent des disciples, qui changent de vie, etc. Il se trouve qu'il y avait un certain succès, et donc des autorités politiques ont pris la partie culturelle du christianisme, mais n'ont pas pris le cœur du christianisme. Et donc, du coup, on a séparé en quelque sorte les choses toutes simples de la foi engageante d'un contexte culturel avec des bâtiments, avec de l'art, avec des règles, etc. Parfois, exactement le contraire du vrai évangile, où tout à coup, on est sauvé par des œuvres, on est sauvé en donnant de l'argent à l'Église, et en fait, l'évangile a été perverti par une espèce de séparation entre la foi et la culture. Et donc la chrétienté, c'est cette culture. Maintenant, il ne faut pas être trop sévère parce que le contexte culturel de chrétienté a quand même créé une certaine familiarité au niveau des termes, au niveau de la connaissance de l'histoire de Noël, du fait d'apprendre le Notre Père par cœur, etc. Et donc, je ne veux pas être trop sévère, mais ça donne un bilan très contrasté. Et les évangéliques, voyant ce bilan contrasté, ont bien utilisé les éléments culturels et ont dit ce qui leur manque, c'est tout à l'heure ma flèche jaune, ce qui leur manque, c'est la conversion. Sauf que maintenant, il faut accepter qu'on revient quelque part à la normalité en étant dans un monde païen, comme les premiers siècles. Et donc, dans ce monde-là, qu'est-ce qui a sidéré les païens? Mais c'était de voir que des gens disent que Dieu est venu comme un homme et que ce n'était pas un dictateur, ce n'était pas un roi selon le monde, mais c'était la personne la plus humble, née dans une crèche. Et qu'est-ce qui les a sidérés après? C'est que ce qui paraît être une faiblesse est une force inouïe. C'est Paul qui dit ça. Regardez, c'est pour certains, ils s'en moquent avant de découvrir le cœur de l'Évangile. Et on revient dans ce contexte-là. Et la partie finalement la plus visible immédiatement, parce que pour certains c'est un peu trop théologique dans un premier temps, certains comprennent, mais la partie la plus visible et la plus concrète, c'est finalement ce que ça change au niveau du comportement des hommes.
Et on est dans un monde où on voit de plus en plus le contraste au niveau de la vie humaine qui est le fruit d'une vision biblique par rapport à une vision païenne. C'est pas par hasard que ces dernières années, on veut rallonger, on a rallongé le délai pour l'avortement, on veut maintenant, on va passer une loi sur l'euthanasie, etc., parce que le paganisme a une répercussion immédiate sur la valeur de la vie humaine. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que dans les 3-4 premiers siècles, au-delà de la compréhension plus théologique de Dieu devenu homme, qu'est-ce qui a fait que les gens étaient frappés? Mais c'est parce qu'ils ont vu que les chrétiens ont accueilli des handicapés, ils n'ont pas tué les bébés handicapés, ils ont vu qu'ils respectaient les personnes âgées même quand elles n'étaient plus utiles économiquement, elles protégeaient les femmes, etc. Et on est de plus en plus dans cette phase. Maintenant, voilà, si Dieu nous a placés ici, donc à la fois travaillons, parce que les gens ils sont pas forcément hostiles. Tout à l'heure, avec l'exemple que tu as dit avec une fille qui était athée et qui maintenant, mais oui, c'est souvent ça. On sait rien sur Dieu. Dieu est parti quoi, quelque part. Et donc on a à la fois ce travail là et on a un comportement qui montre que ben, on est animé par d'autres valeurs quoi.
C'est peut-être un retour aux sources, avec un monde moins christianisé, mais à l'époque, il y avait aussi beaucoup de signes de prodiges. Là, on est moins oui. dans un contexte où les gens se mettent à l'ombre des mouchoirs, des étoiles, ou autre. Mais peut-être que le monde n'est pas prêt, de toute façon, ne se convertira pas, comme dit Jésus, s'il y a des signes de prodiges. À l'époque, ils étaient quand même plus sensibles au côté spirituel, même s'ils étaient moins bons.
Ouais. Je nuancerai un peu. Moi, je ferai une grande différence entre la forme qu'on a parfois un peu enfermée. Tu vois, par exemple, la prière pour la guérison, où à un moment donné, un peu par habitude, ça devait se faire dans une réunion publique, etc. Moi, je peux vous garantir, moi, je personnellement, ça me semble très, très important que dans un groupe mixte, chrétien, non chrétien, ces choses-là soient présentes. Si quelqu'un est malade ou fatigué ou cela, on se soutient aussi dans la prière et on croit au miracle. Donc pour moi, il faut peut-être effectivement accepter que dans un certain cadre, on ne peut pas présupposer une bonne lecture. D'ailleurs, déjà avec l'apôtre Paul, ça a créé quelques malentendus. Voilà. Mais il ne faut surtout pas édulcorer l'évangile. Mais on croit que le Seigneur intervient et qu'il peut intervenir miraculeusement. Et j'espère qu'on l'ait vécu dans telle ou telle situation. Donc pour moi, c'est le lieu un peu où il faut le placer, mais sans l'édulcorer, surtout. Ouais. Mais c'est probablement effectivement pas la phase, parce qu'on est post-chrétien, on est, voilà, j'utilisais le terme de néopaganisme, c'est vrai que là, les 2000 ans d'histoire ont laissé quelques traces, mais pas pour enlever le moindre millimètre de l'évangile, quoi. Mais c'est vrai que peut-être certaines choses vécues immédiatement, publiquement, qui pourraient paraître comme un show, passent moins bien chez beaucoup de gens que quand c'est plus dans l'intimité, avec une prière profonde et sincère et une foi qui attend des résultats et même des miracles. Oui. Mais André, tu voudrais arrêter, mais il y a tout, des... Non, je rigole.
J'aime bien tout ce que c'est l'évangélisation. J'aime beaucoup l'évangélisation. Et pour moi, l'évangélisation, c'est que je l'ai donné à mes deux filles aussi. C'est que toi, c'est un missionnaire du Seigneur et tu travailles en la rue, en le train, où le Seigneur te pousse. Écoute la voix du Seigneur. Parce que un jour, je suis en le travail. Y el monsieur de donde yo trabajo, él es mal del dos. Y el papá. Y él, oh, Paola, yo soy mala. Y yo continué a trabajar. Y yo dije, Señor, ¿qué es que yo fe? Y yo, excusez-moi, yo soy cristiano, es que vous voulez que yo prie por vous. Oh, bien sûr, merci beaucoup. Voilà, ouais. Très contento, monsieur. Voilà, autre jour, on a fait en le train, un musulman, il s'est trompé de train. Il ne le savait pas, et quelqu'un qui est à côté ne le dit rien. Il parlait, autre personne le regardait comme ça. Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai aidé, je l'ai montré, je me basais du train, voilà. Et après, je l'ai trouvé le train, et madame, voilà, ça va? Oui, oui, je parlais un petit peu avec elle. Je lui ai dit, je suis chrétien. Je lui ai dit, ah, je suis musulman. Ah, oh, oui, on est la même racine, me dit la madame. Et je, oui, ok. On se croyait, et je, oui, oui, madame. Mais je pense que le plus important, c'est écouter la nécessité de que
besoin ouais, les mais bien sûr.
Voilà, ouais. Et supplier, prier, et dire au Seigneur que c'est quoi la nécessité donde c'est toi qui me appelé pour aider les personnes. Pas que les personnes se tirent au Seigneur. C'est pas à nous ou à l'Église, c'est au Seigneur.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je remercie Daniel.